Peut-être déjà un peu dit, mais ça me paraît tellement important. Je ne sais pas quelle aurait été votre réaction si vous étiez à la place du Seigneur et que vous rencontriez Pierre après son reniement. Sans doute, on lui aurait dit, mais Pierre, tu te rends compte, tu m'as renié trois fois. Tu as dit trois fois que on aurait mis le doigt là-dessus, n'est-ce pas? Pas le Seigneur. Le Seigneur va remonter beaucoup plus haut que les actes. Le Seigneur monte jusqu'aux motifs qui ont fait agir Pierre. On monte jusqu'à son cœur. On trouve un exemple négatif aussi de cela. Le Seigneur ne s'arrête pas simplement à nos faits et gestes. Le Seigneur s'intéresse au pourquoi des choses. Je donne un exemple négatif. Vous êtes dans le chapitre du même évangile, chapitre 12. Il y a quelqu'un qui veut distribuer de l'argent aux pauvres. Il y a de quoi applaudir, n'est-ce pas? Le Seigneur remonte à la source. Cet homme est un voleur. Et le Seigneur, à notre égard, désire agir aussi comme ça. Il ne va pas nous dire « c'est pas bien ce que tu as fait ». Il va monter à la racine, toujours dans notre cœur. Il ne parle même pas du reniement de Pierre, mais il monte jusqu'à la racine profonde qui est dans nos cœurs, dans les affections pour le Seigneur. Alors, si, et c'est notre désir à tous, nous désirons ne pas déshonorer le Seigneur, nous n'avons qu'un seul secret. Goûter son amour, goûter sa grâce, nous tenir près de lui, avoir un cœur débarrassé de tout ce que le monde voudrait y mettre. Débarrassé de prétentions. Vous savez, les prétentions, ce n'est pas quelque chose qu'on raisonne, c'est quelque chose qui nous rentre dans la peau par des pores, on dirait presque. Certaines satisfactions nous-mêmes, certaines prétentions, parce que ça fait longtemps que je suis chrétien, ou toutes sortes de choses. Non. Nous avons besoin d'avoir affaire au Seigneur. Et quand nous sommes devant le Seigneur, nous ne pouvons pas être orgueilleux. Quand nous sommes devant le Seigneur, goûtons son amour. Vous ne pouvez pas être prétentieux, ce n'est pas possible. Alors c'est là que nous serons gardés à notre place, la place qui nous convient, nous mis de côté et lui pouvant agir dans notre vie. Il n'y a pas d'autre secret, hein, pas d'autre. Encore une petite chose, je ne voudrais pas être trop long, mais on a un tout petit peu ébauché ce matin l'histoire de la manière dont le Seigneur appelle son disciple. On a dit ce matin que dans Jean 1, il lui avait changé son nom. D'ailleurs, ça intéresse les jeunes, c'est un sujet extraordinaire, ceux qui ont changé de nom. Et pourquoi est-ce qu'ils ont changé de nom? Jacob, par exemple, mais il y en a d'autres, Abraham aussi, et il y en a plein qui ont changé de nom. Parce que le nom, c'est l'identité même de la personne, c'est ce qu'elle est. Et si le Seigneur change le nom de Simon en Pierre, c'est qu'à partir de la rencontre que Simon-Pierre a eue avec le Seigneur, plus rien ne sera pareil. Seulement, vous me direz, mais quand on lit Jean 21, vous avez bien lu comme moi, Jésus dit à Simon-Pierre, Pierre, il a dit comme ça, Pierre, m'aimes-tu? Il ne dit pas ça, il dit Simon, m'aimes-tu? Pourquoi? Alors, quelquefois on trouve le nom de Pierre, mais quand le Seigneur interpelle son disciple et qu'il lui parle, il n'emploie pas indifféremment Pierre ou Simon. Il y a un sujet ce sujet a été traité sur Bible Note, sur le nom de Simon. Quand le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan a demandé à vous cribler, pourquoi c'est pas Pierre ?» Parce que Simon, c'est sa nature en Adam, et c'est sur celle-là que Satan peut avoir prise, sur la nature que vous avez reçue de Dieu, mais Satan n'a absolument pas prise sur celle-là. Lorsqu'elle se développe, Satan n'a pas prise sur celle-là, mais il a prise sur l'homme dans la chair que je suis. Alors c'est quelque chose qui paraît quand même intéressant, les Simons dans la parole. D'ailleurs,
quand le Seigneur s'adresse à Gethsémané, il dit qui ? Il dit quoi ? Il dit Pierre, tu dors ? Non, il dit Simon, tu dors. Celui qui n'est pas capable d'entrer dans les souffrances du Seigneur, c'est l'homme dans la chair. C'est pas la nouvelle création, création que le Seigneur a faite. Et il me semble que cette pensée, j'ai trouvé ça sur Bible Note, traverse toute l'Écriture. Il y en a un dans l'Ancien Testament qui s'appelait aussi Simon ou Siméon. Et c'est l'homme dans la chair. L'homme qui va avec son frère Lévi et agiter son épée et qui ne se repentira pas. Pourtant, Joseph lui a donné l'occasion de se repentir. D'ailleurs, si vous cherchez, je crois que c'est le chapitre, peut-être 26, je ne suis pas sûr de la Genèse, il est dit que Siméon, qui a tellement agité son épée parce que sa sœur avait épousé un Cananéen, ben lui-même, il a épousé une Cananéenne. Il est dit, la descendance de Siméon, d'une Cananéenne. Ça voulait dire qu'il avait épousé une Cananéenne. Vous avez dans la parole Simon le pharisien. Tiens, vous avez la maison de Simon le lépreux. Vous avez quelqu'un qu'on va contraindre à porter la croix du Seigneur Jésus, Simon de Cyrène. Il nous parle de toutes les obligations religieuses qu'on met. Il n'était pas volontaire pour porter la croix du Seigneur, on l'a contraint. Vous avez dans le Nouveau Testament, dans un récit de Pierre, quel chapitre je ne pourrais plus le dire maintenant, vous avez Simon le magicien. Hein, tiens. Vous avez aussi Simon Corroyeur. Tiens. Quelqu'un qui s'occupe de cuire, de l'apparence, qui est sur le plan. C'est pas pour rien que Pierre est là, il va passer de Simon Corroyeur à chez Corneille dans le chapitre 10. Parce qu'avant, il était dans un système juif où on s'occupe d'extérieur, de peau, de. Alors vous me direz, mais c'est bien joli ce que tu nous dis ça, mais il y a quand même un Simon qui est Simon au début de l'évangile de Luc. Oui. Est-ce que là, nous n'avons pas quelque chose de prophétique, c'est-à-dire la restauration de celui qui parle de l'homme dans la chair et qui sera béni par l'arrivée du Seigneur, image du millénium. Il attendait la consolation d'Israël. Il avait besoin d'être consolé. Et tous ces Simon présentent ce caractère de l'homme dans la chair avec cette lumière de Simon au début de Luc, n'est-ce pas ? Mais là, nous voyons le Seigneur qui ne va pas dire « Pierre, m'aimes-tu ? » Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Bien-aimés, nous avons nous aussi changé d'identité. Le jour où vous avez rencontré le Seigneur, vous avez changé d'identité. Seulement, il dit à Simon, Pierre. Ça veut dire que Simon, ben oui, il l'avait toujours en lui. Et c'était bien le Simon qui avait renié le Seigneur. Le Seigneur nous donne de bien séparer ce qu'on a déjà dit ce matin entre ce qui est l'homme dans la chair, notre Simon à nous, de ce qu'a fait le Seigneur de nous, une nouvelle création, un enfant de Dieu.
Dans cette scène, le Seigneur Jésus se présente comme le bon berger. Il parle à fils de Jonas. À trois reprises, m'aimes-tu ? La première fois, m'aimes-tu ? Il aurait pu parler de puissance pour le service qu'il allait accomplir. Donc, il lui parle d'amour. Deuxième fois, il aurait pu lui parler d'espérance. Donc, il lui parle d'amour. Troisième fois, il aurait pu lui parler d'action de puissance, de miracle. Et on lui parle d'amour. C'est le point capital, primordial à l'amour du Seigneur devait correspondre l'amour de Pierre, de Simon. Et à chaque fois, il va lui proposer, même lui demander un service. La première fois, c'est « paie mes agneaux ». Deuxième fois, c'est « sois berger de mes brebis ». Troisième fois, c'est « paie mes brebis ». Chaque fois, c'est « mes agneaux, mes brebis ». C'est eux que tu vas prendre soin. Et pas pour dominer sur eux, non, non. En soin. Mais mes agneaux, le terme c'est mes petits agneaux, mes agnelés, n'est-ce pas? Prendre soin. Des enfants, des petits, des faibles, des misérables. Ceux qui ont besoin de bergers. Voilà ce à quoi Seigneur Jésus engage Pierre. Il n'engage pas à de grandes choses extérieures. Non, mais prends soin de mes agneaux, de mes brebis. Et puis, la troisième fois, quand Pierre est attristé, il dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Il est attristé, pourtant, il aime son Seigneur, mais on peut dire, peut-être j'aimerais lire ce verset de 1 Jean 3 et on peut l'appliquer à nous aussi parfois. 1 Jean 3 au verset 21, verset 20 même. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance envers Dieu. Dieu est plus grand que notre cœur. Il sait toutes choses. C'est ce que Pierre lui dit là. Tu sais, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Le Seigneur nous connaît. Il nous connaît nom par nom. Il sait où nous en sommes. Que nous puissions, comme Pierre, lui dire notre amour et avoir à cœur aussi d'être ses bergers, de prendre soin des brebis du troupeau du Seigneur. Dans son épître, juste ce verset, je m'assois en épître de Pierre, à la fin de Pierre, il dit, 1 Pierre 5, verset 2, paissez le troupeau de Dieu, non comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Pierre a été un berger, et on le voit dans ses épîtres de manière remarquable, et si on lit le début des Actes, combien son ministère est fécond en bénédiction. Et mes agneaux, sois berger de mes brebis. Et mes brebis, voilà le risque que le Seigneur confie à celui qui est l'objet de l'amour et des soins du bon berger.
La première question que pose le Seigneur, on a dit « M'aimes-tu ?» Le Seigneur dit autre chose, va continuer sa question. « M'aimes-tu plus que ne font ceux-ci ?» Ça veut dire « Est-ce que tu m'aimes plus que les autres disciples ?» Au verset 15. On pourrait dire « Mais Seigneur, c'est une question un peu provocante. » On dirait que le Seigneur pousse Pierre à se vanter ou à se comparer aux autres. Pourquoi est-ce que le Seigneur lui pose cette question ? Il en pose cette question parce que Pierre, devant tout le monde, je reviens à Matthieu 26 qu'on a lu ce matin, quand le Seigneur dit aux disciples, vous serez tous scandalisés en moi cette nuit, eh bien Pierre, Matthieu 26 verset 33, Pierre répondant lui dit, si tous étaient scandalisés en toi, Moi, Pierre, jamais. Je ne serai jamais scandalisé en toi. Peut-être les autres, parce qu'ils t'aiment moins que moi. Ils sont moins attachés à toi. Mais moi, jamais. Et Seigneur, il semble que dans cette question qu'il pose, il veut remettre un peu le doigt là-dessus, parce que Pierre a dit ça publiquement, s'est vanté devant tout le monde de plus aimer le Seigneur et de ne pas abandonner le Seigneur quand bien même les autres disciples autour seraient. Et Seigneur lui dit alors, maintenant, avec tout ce qui s'est passé, on se retrouve tous ensemble, et les autres disciples sont là. Que tu m'aimes plus que les autres. Et Pierre, on peut dire, a retenu la leçon. Il aurait été en mauvaise position pour dire oui, moi plus que les autres, non. Pierre est là, il a compris que c'était pas ça qui... Il ne pouvait pas se permettre de dire une chose pareille. Et il me semble qu'à travers ça, le Seigneur nous parle. On est dans un monde qui a énormément tendance à faire des classements, à faire des comparaisons. Dans une entreprise, on passe sa vie à ça, à classer les plus performants, les moins performants, ceux qui vont évaluer, ceux qui auront une augmentation plus que d'autres, etc. On est toujours en train de se comparer tout le temps à l'école, les notes, combien tu as eu, tu es combien dans ta classe, etc. On passe notre vie à s'évaluer et à regarder ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont en dessous, dans plein de domaines. On fait du sport, qui c'est qui est le premier en sport, qui c'est qui joue mieux au foot que les autres, chez les enfants. On passe sa vie à se comparer les uns aux autres, tout le temps. Et je dirais que là, le Seigneur, il dit, ne vous comparez pas. Ne cherche pas à savoir si tu es mieux, si tu es moins bien que ton frère. Puis peut-être qu'il peut y avoir deux tendances, d'ailleurs. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont toujours plus forts que les autres, c'est l'orgueil. Puis il y a aussi ceux qui sont toujours en train de se dévaloriser, d'une certaine façon, moi non, les autres, oui, mais moi, je ne peux pas, je ne suis pas capable, etc. Moi, je suis, etc. Il me semble que les deux choses sont pas bonnes et sont pas justes. Et surtout, le Seigneur ne nous appelle pas à ce qu'on passe du temps à s'interroger pour savoir si on est mieux ou si on est moins bien que nos frères ou nos sœurs. Le Seigneur ramène ça à ta relation avec moi. Toi, il y aura à la fin du chapitre, toi, suis-moi. Ce qui compte, c'est ta relation avec moi. Ne regarde pas les autres. Et on a facilement tendance à juger les autres quant à leur amour pour le Seigneur, quant à leur fidélité, quant à leur compréhension de la parole. Individuellement, peut-être aussi, il faut le dire parfois un peu collectivement, apporter des jugements sur ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être convaincu de ce qu'on cherche à vivre, individuellement et collectivement. Mais ce n'est pas notre affaire. Le Seigneur ne nous demande pas de porter des appréciations sur le degré d'amour ou le degré de fidélité de nos frères ou sœurs, ceux avec qui on se réunit habituellement, ceux avec lesquels on ne se réunit pas. La question n'est pas là. Le Seigneur dit « Aie affaire à moi. Ayez affaire en m'assemblant à moi. » Et à faire personnellement à moi, à ta relation avec moi, à ton amour pour moi. Et il n'y a que ça qui compte. Le reste, ton frère, je m'en occupe. D'autres chrétiens, je m'en occupe. J'ai affaire à eux. Toi, ce n'est pas ton sujet, ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de toi. Alors qu'on soit gardé, d'une manière ou d'une autre, de comparaison. Et je pense que c'est des choses, des fois, qui peuvent faire beaucoup de mal, parce que des chrétiens peuvent un peu passer un peu leur vie à se comparer aux autres, à lui qui est plus ci et lui qui est moins ça. Et c'est quelque chose qui peut un peu nous paralyser, nous manger un peu, d'être tout le temps en train de comparer par rapport aux autres et d'être vexé et d'avoir des complexes de supériorité ou d'infériorité, de critiquer, etc. Le Seigneur nous dit, ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de ta relation avec moi. Ton frère, ta sœur, moi, je m'en occupe.
C'est beau de voir la grâce du Seigneur qui n'a pas attendu une minute, on va dire, pour reconfier un service à Pierre alors qu'il était en train de sonder son cœur. En Pierre, il avait renié le Seigneur, qu'il a vu son regard. Là, il a pleuré amèrement et certainement il a reconnu que sa prétention lui disait qu'il pensait qu'il aimait le Seigneur plus que les autres. À ce moment-là, certainement, il s'est rendu compte que c'était sûrement plutôt beaucoup d'orgueil dans son cœur. Quand il a retrouvé le Seigneur, qu'il lui a dit, m'aimes-tu plus que nous font ceci ? Pierre a été sondé, mais la grâce du Seigneur, dans sa grâce, le Seigneur n'a pas attendu une minute pour lui dire, paix mes agneaux. Et c'est beau de savoir que c'est à ce Dieu-là. Certainement, si on reconnaît aussi notre orgueil et nos, on a renié le Seigneur, si on, voilà, on peut le reconnaître devant lui, mais que ce Seigneur plein de grâce peut-être n'attendra pas longtemps avant de nous confier un service dans lequel on pourra être fidèle et utile pour ses agneaux, pour ses brebis aussi. Et je pensais aussi à cet autre passage au début de l'évangile de Jean dont on a déjà parlé plusieurs fois, en Jean 1, quand André a simplement mené son frère Simon à Jésus. André, il avait entendu le témoignage de Jean le baptiseur, il avait voulu suivre Jésus, et après il est allé voir son propre frère Simon. C'est la première chose qu'il a faite. Il ne devait pas imaginer qu'il deviendrait l'apôtre Pierre, qu'il allait être aussi tellement utile. Aussi, en une prédication, Pierre, il y a eu 3000 âmes qui sont venues au Seigneur. Il y a aussi Pierre qui a écrit ses épîtres, ce qu'on a encore aujourd'hui. Et André, il devait pas trop imaginer tout ce qui allait se passer, en fait, en menant son frère à Jésus. Et c'est certainement aussi un encouragement quand, simplement, de mener quelqu'un à Jésus, on ne sait pas quels sont les plans de Dieu derrière ça. Et par les yeux de la foi, peut-être, ça peut être des pierres. Et pourtant, André, il devait connaître bien son frère Simon, et peut-être quand il suivait le Seigneur, il a dû voir plusieurs fois aussi les défauts de Pierre. Il disait, oh là là, mon frère, il dit encore ça, il fait encore une bêtise, il va trop vite. Peut-être, en tant que frère dans la biologie, qu'il devait connaître un peu son frère. Et on voit jamais de reproche d'André à son frère. Et il a eu... Enfin, c'est un encouragement, hein, si on a le désir de mener quelqu'un à Jésus, par les yeux de la foi, de savoir que même si celui qu'on a mené à Jésus, il est pas parfait, et on se recogne, on se retrouve face à ses défauts souvent, c'est peut-être des céphases, que le Seigneur nous donne aussi ses yeux de la foi pour être encouragé, même si ceux à qui on a parlé du Seigneur Jésus, ils sont peut-être un peu plus lents que ce qu'on aimerait pour suivre le Seigneur Jésus avec fidélité.
Simplement une remarque sur le fait que ce moment-là, il est de Jean 21, il est public. On l'a dit, Pierre, il s'était repenti déjà. Et on va dire, les choses elles étaient déjà réglées. Mais là, il y a ce moment, et ce moment, il est public. Et il semble que ça met en évidence qu'il fallait que ça soit manifesté publiquement. Il fallait que ça soit réglé dans la lumière. Peut-être à la fois parce que, on l'a dit, les paroles qu'avait tenues Pierre, d'ailleurs, aussi, comme Rémi l'a dit, quand il se vantait un peu d'être bien meilleur que les autres disciples, mais aussi le reniement de Pierre, cela avait été public. Le reniement, peut-être que Jean n'était pas très loin. En tout cas, c'était connu. Il y avait ce point-là, mais il y avait aussi le fait que maintenant, Pierre allait avoir un service particulier dans l'Assemblée. Et on le voit bien dès le début des actes, à quel point il a... Et donc, il fallait que les choses soient réglées publiquement. Il fallait que ce soit manifesté publiquement. Il me semble que ça nous parle aussi. On a dit tout à l'heure que dans nos relations fraternelles, nos vies collectives, on a du mal à nous repentir, régler parfois des sujets. Peut-être qu'aussi on a du mal à le faire, à manifester publiquement, que ça soit réglé dans la lumière. Je sens que c'est important quand on voit par exemple, pas tout à fait le même sujet, mais l'épître à Philémon. Quand Paul connaît ce récit, écrit à Philémon, parce qu'on connaît l'histoire, Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime, qui s'était enfui, peut-être l'avait-il volé en partant, on ne sait pas exactement, mais il s'était retrouvé à Rome. Il avait été au contact de Paul et il s'était converti par le moyen de Paul. C'était très beau. Paul a à cœur de le renvoyer vers Philémon parce qu'il y avait quelque chose à régler. Donc il le renvoie à Colosse. Mais ce qui est étonnant, ce qui peut frapper, c'est qu'il le renvoie avec une lettre donc qui nous est restée. Et cette lettre, elle n'est pas écrite qu'à Philémon. Même pas seulement aux quelques personnes qui étaient peut-être au courant. Elle est écrite à Philémon et à l'assemblée qui se réunit dans sa maison, donc c'est l'assemblée à Colosse. Il fallait que ce sujet, non seulement il soit réglé, mais il soit réglé publiquement, parce que il y avait eu des interactions, sans doute, dans l'assemblée, il y avait peut-être des personnes qui étaient au courant, il y avait des interactions par rapport au service de l'un et de l'autre, d'Onésime, bien sûr, qui devait régler ça publiquement. Voilà. Et ici, on voit que, eh bien, ce moment où, où est mise en évidence cette restauration de Pierre, il y a cet aspect public, peut-être aussi que l'on peut s'encourager quand il y a des différends, peut-être individuels entre les uns et les autres, mais qui sont connus, qui ont des interactions dans nos vies collectives, alors que ça soit réglé dans la lumière. Et c'est bien ce que fait le Seigneur. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que le Seigneur le fait avec une grande douceur. Des mots extrêmement délicats et doux à Pierre. Un peu d'ailleurs comme Paul, dans sa lettre à Philémon, dans ce sujet qui était assez sensible, difficile entre deux frères. Eh bien, il le fait avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de tact, de douceur. De manière aussi à gagner les cœurs, que ça nous encourage aussi à régler, quand il y a des sujets difficiles, à les régler dans la lumière, à le manifester aussi dès lors que ça a été connu publiquement, qu'il y a eu des interactions dans nos vies collectives, et à le faire avec cette douceur dont le Seigneur est le plus beau des modèles.
Nous lisons au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Lisons un verset dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 7. Je vais commencer par le verset 1. Ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Et puis au verset 9, la fin, car vous avez été attristés selon Dieu, afin qu'en rien vous ne receviez de préjudice d'autre part, car la tristesse qui est selon Dieu opère en une repentance à salut dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde opère la mort. Car voici ce fait même que vous avez été attristés selon Dieu, quel empressement il a produit en vous. On voit donc, on dit voilà pourquoi le Seigneur a posé trois fois la question « M'aimes-tu ?» Oui, on dit bien sûr parce que voilà, trois fois il l'a renié. Mais on voit aussi qu'il a fallu que le Seigneur pose la question trois fois pour qu'enfin il y ait cette tristesse qui opère dans le cœur de Pierre. Et on verra combien cela a été profitable pour lui dans son service, dans son ministère par la suite, que ce soit dans les assemblées, que ce soit pour l'évangélisation.
On avait mentionné trois étapes de reniement. Maintenant, ici, on voit trois étapes de restauration. Alors, Benjamin a déjà mentionné qu'il y a deux expressions d'amour mentionnées ici. Il y a donc agapeo et il y a phileo. Donc, le agapeo, c'est plutôt cet amour de Dieu, surtout utilisé pour l'amour de Dieu vis-à-vis des hommes et aussi des hommes vis-à-vis de Dieu. C'est, on peut dire cet amour qui vient de Dieu. Alors, le Seigneur, il utilise ce mot dans les deux premières expressions. Premièrement, il dit, m'aimes-tu plus que les autres? Est-ce que tu as cet amour qui vient de Dieu, qui est plus haut plus grand que les autres, celui des autres? Et la réponse de Pierre, c'est que, avec le filéo, oui, je suis attaché à toi, je t'aime. Mais pas dans cette hauteur. La deuxième fois, le Seigneur, il le demande, est-ce que tu m'aimes? Il y a plus maintenant, plus que les autres. Est-ce que tu as vraiment cet amour profond vis-à-vis de moi? Est-ce que tu m'aimes tant que ça? Et là aussi, Pierre y répond avec le même mot filéo. Oui, je suis attaché à toi, je t'aime. Et la troisième fois, le Seigneur utilise le mot que Pierre a utilisé pour la réponse, le mot filéo. Est-ce que tu es vraiment un peu attaché à moi? Est-ce qu'il y a au moins un peu d'amour? Et là, il est attristé. Il dit, ah oui, tu connais tout. Tu sens de mon cœur, tu sais qu'il y a au moins un peu d'amour dans mon cœur. Alors, Seigneur, il peut lui confier tous ses brebis. Alors, le Seigneur, il veut aussi voir dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a vraiment cette confession que nous disons si légèrement? Oh oui, j'aime le Seigneur. Et quand il y a la preuve, alors il n'y a plus beaucoup de cet amour. Alors, il va nous demander, est-ce que tu m'aimes vraiment? Combien grand est ton amour vis-à-vis de moi? Et alors, là, il y a une tristesse, c'est une tristesse profonde. C'est la vraie tristesse qui va à la repentance. Et là, le Seigneur, il voit dans son cœur. Regarde, le Seigneur, regarde mon cœur, sonde mon cœur. S'il y a quelque chose, le psaume 139, s'il y a quelque chose, un chemin de... Pardon. À la fin du psaume 139, excusez que je ne l'ai pas en cœur. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin et conduis-moi dans la voie éternelle.
Important, c'est parce que nous pensons notre vie spirituelle et notre affection pour le Seigneur. Ce qui est important, c'est ce que lui en pense. Laodicée dira beaucoup de choses quant à elle, je, un peu comme Pierre quand il déclarait qu'il aimait le Seigneur. Il a des fils en remet à l'appréciation du Seigneur et c'est ce que fait Pierre, briser. Seigneur, tu sais. Ce qui est important, c'est ce que Dieu voit dans ma vie. Ce n'est pas ce que je m'imagine être spirituellement. C'est ce que le Seigneur voit pour ma vie. C'est ça qui est important. Alors nous avons tous certainement, et les jeunes qui sont ici, le désir de servir le Seigneur. Eh bien, ce texte nous parle de deux conditions pour servir le Seigneur. La première, c'est ce brisement dans lequel... Pierre est, vous êtes plein de vous-même, le Seigneur ne pourra rien faire de vous. Pas plus qu'il ne pouvait faire de quelque chose de Pierre, de Moïse quand il avait 40 ans. C'est quand il ne veut plus y aller, quand il est brisé, le psaume 90, on l'a cité ce matin, parle de ça. L'homme va à 80 ans, j'ai été obligé d'aller à 80 ans pour comprendre que l'homme est peine et vanité, orgueil, vanité. Alors ça c'est une chose, c'est que réaliser quelque chose de ce qu'on appelle l'affranchissement. Être d'accord avec Dieu sur ce que je suis. Souscrire à ce que Dieu a dit sur moi-même. Fondamental si on veut servir le Seigneur. Puis la deuxième chose, c'est aimer. Aimer le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas aimer ce que le Seigneur aime si vous n'aimez pas le Seigneur. Et si vous aimez le Seigneur, je dis un peu autrement, forcément vous aimerez ce qu'il aime. Et qu'est-ce que le Seigneur aime? Sinon les siens, sinon les rassemblements, sinon ceux pour qui il a donné sa vie. Ah, si j'aime le Seigneur, j'aimerai aussi les miens. Vous me direz, oh, si vous saviez les frères avec lesquels je me réunis, ils sont épouvantables. Ah, mais ça c'est... Ça, c'est de l'amour humain uniquement, on aime ceux qui nous aiment. Mais l'amour du Seigneur, c'est l'amour de celui qui a dit « Père, pardonne-leur ». Leur, c'était qui? C'était ceux qui ont planté les clous dans ses mains, de ses pieds, qui ont craché sur lui, voilà. C'est cet amour-là que le Seigneur voudrait voir dans notre cœur. Et c'est avec cet amour-là que nous sommes invités, non pas un amour d'atome crochu, mais cet amour-là, qui est l'amour divin, l'amour du Seigneur qui m'a aimé tel que j'étais. Alors, dans la mesure, nous, on ne sait pas le fabriquer, cet amour. On ne sait pas faire personne, même pas l'apôtre Paul, Pierre ne savait pas faire. Mais le Seigneur peut verser cet amour dans nos cœurs. Le Seigneur peut nous remplir de son amour à lui, qui n'a rien à voir avec l'amour du monde. Rien du tout. Le monde parle d'amour, il ne sait pas ce que c'est. Mais l'amour du Seigneur versé dans nos cœurs. De ton amour même, que mon amour vivra. Alors, si nous voulons servir le Seigneur, ces deux leçons, brisement, pourront le faire que par la force que le Seigneur donne, et puis cet amour, dont lui seul peut remplir notre cœur.
Le verset 18, le Seigneur montre à Pierre que peut-être il serait amené à connaître la souffrance. Quelle mort il le glorifierait. Pourtant, on sait qu'il va servir le Seigneur pendant plus de 3 décennies, peut-être 4. Entre 3 et 4. Et le début de Le livre des Actes montre avec quelle puissance, avec quel zèle. Dès le début, il parle, il s'exprime au nom du Seigneur. Il parle à ses frères, il parle à la foule. Et 3000 âmes sont ajoutées. Il peut même dire, vous avez renié le Saint et le Juste. Et c'est lui qui dit ça. Quelle puissance, quel magnifique service il a accompli. Et là, le Seigneur l'invite au verset 22. Suis-moi. Pierre, il y a encore quelque chose, il regarde l'autre. Il regarde Jean. Disant, mais qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Peut-être on dit ça de nos frères et les autres. Dont le Seigneur, il lui dit au verset 22, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe en fait? Émile a dit tout à l'heure, peu importe les autres en fait, c'est toi, toi Pierre, je m'adresse à toi, je ne m'adresse pas à Jean, je lui parlerai, mais à toi, toi, suis-moi. Il y a beaucoup de jeunes ici, vous désirez suivre le Seigneur, et on est heureux de vous voir là, à écouter la parole, attachez-vous à lui. Il ne manquera pas. Il vous dit maintenant, aujourd'hui, suis-moi. Suis-moi dans le chemin. N'aie pas peur, je serai avec toi. Je te montrerai le chemin. Je te montrerai le service. Toi. À chacun, il vous dit. Toi. Suis-moi. Quel aimé que nous puissions apprendre à le suivre, à écouter sa voix. Comme Pierre. Et il a fait de manière remarquable.
Le passage nous montre que rien, absolument rien de notre passé ne peut nous empêcher de servir le Seigneur, ne peut nous retenir. Le plus grand des péchés, si nous le confessons avec sincérité, est entièrement effacé. On l'a dit déjà à la première réunion, et Marc vient de le dire maintenant, et lisons ce verset de Actes 3, où Pierre s'adresse aux Israélites. Et au verset 13, donc acte 3, verset 13, il dit « Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate lorsqu'il avait décidé de le relâcher. » Et il répète « Mais vous avez renié le Saint et le Juste. » Mais on pourrait dire « Mais quel culot !» Il vient de renier son maître d'une manière terrible peu de temps avant, et voilà comment il s'adresse au peuple. Il avait compris qu'il avait été entièrement pardonné. Et parfois, nous n'osons pas servir le Seigneur parce que nous traînons des casseroles derrière nous. Alors peut-être que nous ne les avons pas confessés. Peut-être qu'il n'y a pas eu cet état de tristesse. Eh bien, mettons-nous en règle avec Dieu. Mais une fois que ces péchés, que ces gros péchés ont été pardonnés, plus rien ne peut m'empêcher. Mais il faut l'humilité. Je dois rester humble, n'oubliant pas ce que j'ai fait. Mais cela ne doit pas me retenir. Quel exemple! Et si nous avons un frère ou une sœur qui pêche lourdement, qui chute dans l'assemblée, et peut-être même un conducteur, quelle est notre attitude? Est-ce que trop souvent, nous ne sommes pas très durs avec lui? Est-ce que nous avons ce même regard du Seigneur envers lui? Un regard de compassion, de tristesse, un regard de compassion. Est-ce que nous n'avons pas plutôt la tendance à encore plus enfoncer ce frère et cette sœur? Et alors on dit oui, au nom de la sainteté de Dieu, au nom de la justice de Dieu, il faut agir. Mais le Seigneur nous montre un autre chemin. Il commence à lui parler au cœur. Et les plus gros des péchés qui est commis autour de nous, eh bien, nous devons avoir cet esprit-là. Ne pas condamner, ne pas juger. Et ici, on voit, le Seigneur n'a pas laissé Pierre dans son jus pendant des semaines et des mois. Ça s'est très vite réglé. Et ensuite, on pourrait peut-être dire, si un frère a été restauré, notamment un frère qui avait un service important, moi, je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. Est-ce que ce n'est pas souvent l'attitude de nos cœurs? Mais Pierre nous montre l'exemple de Pierre. Eh bien, si, faisons-lui confiance. Il a chuté terriblement. Et voilà, il a compris la leçon. Et il a eu des nouvelles forces pour continuer. Nous avons un autre exemple dans la parole de quelqu'un qui a très lourdement chuté. C'est David. Mais quelle horrible chose qu'il a faite. Mais voilà, il a confessé son péché. Il a complètement tout avoué à Dieu. Et celui qui veut peut le lire dans le psaume 51 où on voit sa confession. Et il est resté un fidèle serviteur de l'Éternel. Il a été pardonné. Que nous puissions aussi pardonner à ceux qui ont lourdement chuté. Et puis encore autre chose. Peut-être que moi, j'ai commis quelque chose de terrible. Il y a un an, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et je n'arrive pas à me pardonner. Ça reste là. Oh, j'ai fait quelque chose de terrible. Et nous avons lu ce verset dans 1 Jean au chapitre 3. Au verset 21, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu. Si Dieu ne nous condamne plus, pourquoi est-ce que nous nous condamnons encore? Et on peut ainsi rester en retrait, parce qu'il y a eu quelque chose de gros dans notre vie qui a déshonoré Dieu. Eh oui, mais il y a un moment donné, nous devons aussi, on comprendra ce que je veux dire, nous pardonner nous-mêmes. Si Dieu nous a pardonné, nous devons nous pardonner aussi. Et alors, eh bien, nous serons libres pour le servir, pour être une aide dans l'assemblée.
Par rapport à ce que Marco, supportez-moi encore un tout petit peu, je voudrais parler aux enfants. Par rapport à ce que Marco vient de dire, il y a une histoire là-dessus qui illustre bien ce que nous avons là. Nous sommes il y a très longtemps, il y a un évangéliste, quelqu'un qui passe d'une ville en ville et puis qui annonce l'évangile. Et dans ce temps-là, on louait une salle un peu comme celle-là et puis les gens, on les invitait, puis les gens venaient dans la salle et puis lui, il arrivait et puis il annonçait l'évangile, ce qui remplissait son cœur. Et puis un jour, il arrive dans la ville où il a été élevé. Donc, il a passé son enfance dans cette ville et puis le soir, il est là, la salle est louée, les gens sont là et il arrive pour annoncer l'évangile. Alors il arrive, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore du micro, puis il se met devant et puis il dit « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Le « qu'est-ce que c'est que ça ?» c'était une lettre
qui était posé là, et puis il regarde, ah ben, il y avait son nom, c'était pour lui. Alors avant de commencer, il ouvre la lettre et il lit. On l'appelle par son prénom en disant, tu es un sale hypocrite. Comment oses-tu venir parler de Dieu alors que tu sais très bien à telle date et à telle date ce que tu as fait. Et on était là et on t'a vu. Et puis tel jour, tu as fait ça aussi. Hein? Et ça, tu peux pas nier que c'est vrai. Et puis tel jour, tu as vu quelle bêtise énorme tu as fait. Et tu veux parler de Dieu alors que tu as une liste très longue de péchés. Alors il a eu les jambes un peu qui flageolaient. Il s'est dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir que ça illustre ce que Marco nous a dit. Permis à son Seigneur. Et puis il a pris la parole, il a dit, écoutez, je suis arrivé ici, il y avait une lettre. Et cette lettre, elle n'est pas brillante pour moi, mais je vais vous la lire. Et devant tout le monde, il a lu cette lettre, par l'hypocrite, et il commence à énumérer la longue liste de tout ce qu'il avait fait pendant son enfance, et qui était connu de ceux qui avaient rédigé la lettre. Il l'a posé, il y a eu un silence. Il a dit, je suis obligé de vous dire que tout ce qui est écrit dans cette lettre est l'entière vérité. Mais, et vous comprenez comment il a continué, il a dit à ces gens qui étaient là, mais voilà ce que j'étais. Et voilà ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Et voilà que le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Et au lieu d'être un obstacle, ça a été un merveilleux lanceur pour annoncer l'évangile de la grâce de Dieu qu'il avait pris lui et qu'il lui avait tout pardonné. Cette histoire illustre un peu ce qu'on a entendu. Vous avez renié le Saint et le Juste. Oui, d'accord. Il pourrait dire, mais toi, oui, mais bon, tout ça c'est fini, c'est pardonné.
Une des tactiques de diable, c'est utiliser la culpabilité avec le croyant. Il sait déjà qu'il ne peut pas, il peut pas réussir contre lui parce qu'il est pour le Seigneur. Donc, il veut lui rendre inactif dans ce monde. Parce que nous, comme des croyants, on est là pour détruire le royaume de diable. Lui, il est le dieu de ce monde. Et donc, c'est ce qu'il a essayé de faire avec Pierre. Et donc, on a vu qu'il était inactif, loin de la service. Et la restauration lui a mis en service, remis en service. Mais encore, le diable ne l'arrête jamais. Il veut que Pierre regarde autour de lui. Ce que Rémi a dit, il a regardé à Jean et nous, souvent, on regarde, ah, il y a ce frère, il a fait ça, donc c'est pas grave. Ou bien, on regarde lui, et on regarde lui, mais il faut qu'on regarde le Seigneur. Ça me rappelle un peu le verset en Jacques, chapitre 4, verset 7. « Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Tout simplement, on ne peut pas résister avec le combat, parce que le combat, il était fait et c'était le Seigneur qui est victorieux. Donc, pour résister le diable, pour nous, ça suffit de se rapprocher du Seigneur, tout simplement. Et là, on sera actif dans la service.
On a dit tout à l'heure que Pierre, il rappelle pas son passé, mais il a pas oublié. Et on peut lire un passage dans 1 Pierre au chapitre 2. C'est pas parce qu'on rappelle pas le passé qu'on n'oublie pas. Mais Pierre parle du côté du Seigneur. Verset 21, 1 Pierre 2, verset 21. Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. Le Seigneur a beaucoup souffert du reniement de Pierre, mais il n'a pas réagi, il n'a pas vengé. Nous, si on nous faisait du mal, notre réaction immédiate, c'est se venger. Il m'a fait du mal, je lui rends. Bien, le Seigneur est un modèle pour nous aussi. Il ne menaçait pas. Le Seigneur a dit à la fin de Jean 21, « Toi, suis-moi ». Et dans ce passage d'un Pierre 2, on voit que le Seigneur nous a laissé un modèle afin que nous suivions ses traces. Quand on est restauré, on peut suivre le Seigneur et on peut le servir. Et Pierre est pour nous aussi maintenant un modèle. Pierre a été utilisé par le Seigneur pour le suivre et pour le servir. Eh bien, nous aussi, il ne faut pas en rester là, toujours penser au passé en disant, eh bien là, j'ai manqué, remué tout ce qui était du passé. Voilà, j'ai eu tant de manquements dans ma vie. On tourne autour de soi et on ne fait rien pour le Seigneur. Non, il faut aller de l'avant, il faut marcher, il faut avancer, il faut servir le Seigneur. Le passé, c'est le passé. Le Seigneur ne nous parle plus. Quand les choses sont réglées, il ne faut pas les rappeler. Le Seigneur nous demande d'aller de l'avant.
Dans ces deux épîtres de Pierre, il y a des enseignements remarquables. Et on fait bien de les lire avec attention. Juste un verset en 1 Pierre 4, où il rapporte aussi ce qu'il a appris du Seigneur. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose s'est approchée. Soyez donc sobres et veillez pour prier. Le Seigneur avait dit cela, n'est-ce pas, cette semaine. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. Là, l'apôtre Pierre redit, ceux à qui il s'adresse, veillez pour prier. Mais, verset 8, avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Il a été l'objet de l'amour du Seigneur et il dit, mais vous aussi, faites pareil. Un amour fervent. L'amour couvre une multitude de péchés, que nous puissions aussi avoir à cœur cela. Puis juste la dernière phrase que le Saint-Esprit nous donne par l'apôtre Pierre à la fin de la seconde épître. Verset 17 de Pierre 3, il dit « Prenez garde, mais il termine par le verset 18 « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Voilà les dernières paroles de Pierre adressées à ceux à qui il s'adresse, à ceux qui l'écrit. Et il nous le dit à nous aussi aujourd'hui, de croître, de grandir. Dans quoi ? Dans la connaissance ? Dans la grâce, d'abord. Et puis, la connaissance, pas tant de beaucoup de vérité, c'est utile, mais dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, quelle est la dernière phrase ? Elle s'adresse à lui la gloire. Et maintenant, et jusqu'au jour d'éternité, celui qui il avait aimé, et puis celui qui l'a servi, peut terminer son épître et ses dernières paroles. À lui la gloire. Que aussi nous puissions dire cela. À lui, à toi, Seigneur Jésus, la gloire, dès maintenant et pour toujours.
On pourra une application pratique peut-être aussi, qui est, je ne pense pas que ce soit l'enseignement principal du passage, mais le Seigneur fait cette distinction, donc il dit, il confie ce rôle de paître, on a dit plusieurs fois paître ou PC, peut-être c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent, pour les enfants qui se disent peut-être qu'est-ce que c'est paître depuis qu'on dit ça. Paître c'est donner à manger, paître un troupeau c'est lui donner à manger. Et Pierre, le Seigneur confie à Pierre cette responsabilité, particulière d'être de ceux qui vont donner de la nourriture, présenter la parole, même avoir cette responsabilité tout à fait particulière d'écrire une partie de la parole de Dieu, et puis ensuite d'encourager ses frères, ses sœurs dans cette jeune assemblée, l'assemblée qui va être formée par le Seigneur et qui va croître, de donner à manger. On comprend bien que cette image, c'est donner à manger de la nourriture spirituelle. Et il y a cette distinction qui est faite entre les brebis et puis les agneaux. On comprend que peut-être les agneaux, c'est un animal qui vient de naître, ça peut faire référence à des enfants, des petits-enfants, et puis ça peut faire référence aussi à des adultes ou des jeunes gens ou des adultes, mais qui viennent tout juste de se convertir, qui viennent juste de connaître le Seigneur, qui connaissent encore pas grand-chose. Et le Seigneur lui dit, eh bien, il faudra que tu donnes à manger quelque chose qui sera bien pour ces agneaux, pour ces petits nouveau-nés, pour ces enfants qui ne connaissent pas encore grand-chose. Ils auront besoin de nourriture. Ta responsabilité, ce sera de leur donner aux agneaux. Et puis, il y a aussi les brebis. Les brebis, ça fait penser à un animal adulte. Et on connaît toutes les images de la parole qui nous montrent voilà l'enfance dans laquelle il faut le lait, d'abord des aliments qui sont adaptés pour cette phase. Et puis, après, de la nourriture solide. La viande, des choses qui sont plus solides pour ceux qui sont des adultes en Christ, des croyants qui sont plus affermis et qui ont besoin aussi de nourriture. On ne va pas toute sa vie se contenter d'entendre à un moment donné, les premiers rudiments des oracles de Dieu, les choses simples. À un moment donné, on a besoin, pour grandir, pour continuer la croissance, on a besoin de nourriture plus solide. Et ça, c'est plutôt ce que vont avoir à manger les brebis. Et donc, le Seigneur, il n'oppose pas du tout les deux et il dit, occupe-toi des agneaux. Occupe-toi des brebis, donne à manger aux agneaux, donne à manger aux brebis. Et peut-être pour ceux qui sont amenés à présenter la parole dans chacun, dans un rassemblement, et puis c'est déjà bon vrai dans sa famille, avant de passer en public, déjà quand on a des enfants à la maison, de donner à manger à ce qui correspond à des agneaux, quand ils sont tout petits, et qu'on leur lit des histoires de la Bible avec des images, etc., et qu'on leur raconte des choses de base pour adapter à des enfants. Et puis au fur et à mesure qu'on a des enfants qui grandissent, qui deviennent et un peu plus grands, des préadolescents, des adolescents, et bien aussi de pouvoir apporter quelque chose d'autre et de s'adapter à ça. On parle souvent de ce sujet-là. Et dans l'assemblée, c'est la même chose. Il y a besoin aussi qu'il y ait parfois de la nourriture, des choses que les enfants peuvent comprendre, peuvent recevoir. Et puis il faut aussi de la nourriture plus solide. Pierre avait cette responsabilité. Et quand il va reprendre ça, il a pris ce service que le Seigneur lui a confié. Quand il reparle de ça dans son épître, il va dire, moi qui suis ancien avec eux, en parlant de la responsabilité de ceux qui peut-être vont être plus responsables d'apporter cette nourriture aux autres, il va dire, paissez le troupeau, je ne vais pas le chercher, c'est un peu long, mais il va dire, paissez le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu, le troupeau, ça englobe à la fois les petits agneaux et les brebis, les adultes, tout le monde est englobé. Il ne dit pas, occupez-vous, vous spécialement des agneaux, d'autres, voilà, paissez le troupeau de Dieu dans cette pensée qu'il faut de la nourriture qui convienne à tous les âges, à tous les développements, et qu'on est responsable d'avoir ça à cœur. Je pense qu'il faut avoir cet exercice de se dire, peut-être dans un sujet que je peux être amené à présenter, dans ce que je dis, ou même parfois dans une... C'est toujours très heureux, je trouve, quand dans une méditation, quelqu'un, un frère, présente un sujet, puis à un moment donné, peut-être, il va un peu s'arrêter ou faire un peu une parenthèse ou dire, là, j'ai à cœur de dire quelque chose peut-être un peu plus spécialement pour les enfants, que les enfants pourront comprendre. Même les enfants de 5-6 ans, ils vont pouvoir comprendre ce que je vais dire. Écoutez bien, peut-être des fois, leur signaler un peu pour que les enfants, c'est un peu long pendant une heure de réunion, des fois. Alors, quand ils entendent qu'on leur dit ça, peut-être, ils vont un peu lever la tête de leur crayon et écouter un peu ce qu'il y a à dire. Et puis, de la même façon, ça arrive qu'un frère, des fois, dise, là, je vais peut-être donner une application prophétique qui est intéressante, qui est un peu difficile, qui est un petit peu plus difficile, peut-être des fois on peut prévenir un peu, parce que pour que les enfants disent, là je vais avoir un peu de mal à comprendre ça, c'est pas grave si tu comprends pas ça, mais par contre il y a là des frères et des sœurs aussi qui vont être heureux de comprendre quelque chose peut-être qu'ils n'avaient jamais encore entendu dans la parole de Dieu, et ça ouvre une perspective où on s'émerveille tout à coup de voir un aspect ou une application auquel on n'avait jamais pensé. On est encouragé aussi d'avoir reçu ça. Même des frères qui connaissent bien la parole, ils sont encouragés quand ils disent « ça, j'avais jamais perçu ça ». Eh bien, voilà, on a à cœur d'avoir de la nourriture, de donner de la nourriture pour les agneaux et pour les brebis, pour tout le troupeau.
Juste un verset. Nous avons vu lors du reniement de Pierre, voilà, on l'avait reconnu trois fois pour avoir été avec Jésus. Et on a vu la lâcheté de Pierre, on a vu son reniement. Lisons un verset qui se passe quelques jours plus tard dans Actes au chapitre 4. Actes 4, verset 13. Et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, il s'en étonnait et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Quelle différence, quel changement. À partir de ce moment-là, Pierre n'a plus peur. Il a eu des coups, il a été mis en prison, il a été mis à mort, mais il avait cette hardiesse. Parce qu'il ne comptait plus sur ses propres forces, mais il comptait sur les forces du Seigneur. Et d'ailleurs, quel exemple lorsqu'il est en prison, enchaîné à quatre soldats. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort profondément. Un ange qui vient pour le délivrer doit le secouer. Qui d'entre nous, lors de difficultés, alors que l'ennemi est peut-être là, alors qu'il y a des problèmes, qui d'entre nous pourrait dormir paisiblement? C'est ce qu'a fait Pierre. Quelle leçon! Il a fallu qu'il descende si bas pour qu'il apprenne ses leçons. Et quel exemple pour nous. Et puis, voilà, on a dit de parler aux enfants, aux jeunes, petite parole. Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'à l'école, au collège, au lycée, est-ce que on sait que tu es un enfant de Dieu? Rémi a dit plus tôt, je n'ai pas toujours montré, je dois dire la même chose. Mais n'ayez pas peur de dire que vous êtes des chrétiens, que vous connaissez le Seigneur Jésus. Et on pourra dire de vous aussi, on le reconnaît pour avoir été avec Jésus, pour connaître le Seigneur.
Thank you.